Vous écoutez, on lit pour vous.
Les cheveux blancs peuvent-ils retrouver leur couleur? Un texte de Catherine Anfield paru le 23 janvier 2025 dans La Presse. C'est dur accepter ces cheveux blancs, surtout lorsqu'ils arrivent tôt. Y a-t-il une façon de ralentir le processus, voire de le renverser? Une habitude de vie à changer? Un supplément? Un traitement? Une dermatologue et un chercheur en psychobiologie font le point sur ce que l'on sait et sur ce que l'on peut faire. De blanc à brun. Au retour de ses vacances il y a quelques années, Martin Picard a repéré un cheveu particulier sur sa tête. Blanc à l'extrémité, pigmenté à la racine. Citation. En m'examinant dans le miroir, j'en ai trouvé quatre autres, repigmentés en même temps, pendant que j'étais en vacances. Fin de citation, raconte le professeur agrégé à l'Université Columbia à New York. Cette découverte n'était pas fortuite. Martin Picard et ses collègues menaient alors une étude sur la question. Au terme de 2 ans et demi de recrutement, ils ont été en mesure de recruter 14 participants, âgés en moyenne de 35 ans et ayant tous trouvé, sur leur cuir chevelu, un ou plusieurs cheveux repigmentés. C'est documenté à quelques reprises dans la littérature scientifique, un cheveu blanc a le potentiel de retrouver sa couleur de jeunesse. C'est rare, mais ça arrive. Génétique et environnement. La couleur du cheveu est maintenue par un pigment nommé mélanine, aussi responsable de la pigmentation de la peau. Lorsqu'un cheveu blanchit, c'est parce que des cellules situées dans son follicule, les mélanocytes, ne produisent plus assez efficacement la mélanine, explique la dermatologue Elena Netchiporuk. Citation. Comme dans n'importe quel aspect en médecine, on peut parler de facteurs génétiques et environnementaux. Fin de citation, explique la professeure adjointe à l'Université McGill. Dans les dernières années, plusieurs gènes ont été identifiés comme facteurs de risque de l'arrivée prématurée de cheveux blancs. Par prématuré, on parle de moins de 20 ans chez les Blancs, 25 ans chez les Asiatiques et 30 ans chez les Noirs. Rayons UV. Parmi les facteurs qu'on peut contrôler pour retarder le processus, Elena Netchiporuk pense en premier aux rayons ultraviolets. Citation. Les UVA causent du stress oxydatif, une forme d'agression de la cellule, et c'est quelque chose que les mélanocytes ne tolèrent pas. Fin de citation, résume la dermatologue qui conseille de se couvrir la tête au soleil. C'est probablement la raison pour laquelle les personnes à la peau foncée gardent plus longtemps leurs cheveux colorés, dit-elle. Citation. Elles sont mieux équipées pour se défendre contre les rayons UV. Fin de citation. Le tabagisme et l'obésité sont aussi associés à l'apparition précoce de cheveux blancs. Nutrition et thyroïde. L'anémie et des conditions auto-immunes, vitiligo, hypothyroïdie, peuvent aussi en être la cause. Citation. La vitamine D, la vitamine B12, l'acide folique, le fer, tout ça est important, résume Elena Netchiporuk. Si on est en déficience nutritive, ça va prédisposer aux cheveux gris prématurés. Fin de citation. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs conseillent toutes sortes de suppléments, fer, vitamine B12, cuivre, pour retarder, même renverser le grisonnement des cheveux. Citation. S'il y a une carence, des suppléments peuvent être proposés. Mais il n'y a pas assez d'études pour dire qu'on doit en prendre sans déficience. Fin de citation, indique la docteur Netchiporuk. Le chercheur Martin Picard est du même avis. Citation. S'il y a une carence, oui. Mais sans ça, je ne pense pas que ça vaille la peine. Fin de citation, dit-il. Vous écoutez, les cheveux blancs peuvent-ils retrouver leur couleur? Un texte de Catherine Anfield paru le 23 janvier 2025 dans La Presse. Stress émotionnel. On connaît tous des gens dont les cheveux ont blanchi après une période stressante. Coïncidence ou facteur précipitant? Citation. Quand on est stressé, notre système nerveux va sécréter de la norépinéphrine, qui a aussi un effet néfaste sur le stress oxydatif des mélanocytes. Fin de citation, indique la docteure Netchiporuk, qui conseille aussi de contrôler ses facteurs de stress et de mieux gérer son stress. Le lien entre stress émotionnel et cheveux blancs demeure assez peu documenté. Selon le chercheur Martin Picard, son étude publiée en 2021 est la première à le mesurer de façon quantitative. Citation. « On a vu des corrélations vraiment frappantes », fin de citation, assure le chercheur, qui s'intéresse au lien entre le corps et l'esprit. Chez quelques participants, dit-il, les moments où les cheveux grisonnaient ou se pigmentaient à nouveau correspondaient à des périodes de stress ou de relaxation importantes, une séparation, des vacances. Énergie. Si on prend de longues vacances, si on laisse un emploi stressant, à quel point pouvons-nous espérer retrouver quelques cheveux d'antan? Citation. Je pense que pour les cheveux qui ont récemment perdu leur pigmentation, il y a du potentiel. Mais pour ceux qui sont blancs depuis 20 ans, je ne sais pas s'il y a de l'espoir. Fin de citation, répond Martin Picard. C'est comme s'il existait pour chaque brin de cheveux une fenêtre de possibilité, dit-il. Citation. C'est ce que notre modèle prédit. Ces cheveux-là, ils vont être blancs, peu importe, et la diminution de stress, l'activité physique ou le repos ont été capables de ramener la couleur. Fin de citation, illustre-t-il. Son équipe a aussi comparé la signature moléculaire des cheveux blancs et des cheveux pigmentés. À son laboratoire, Martin Picard étudie les mitochondries, soit le portrait énergétique de la cellule. Le cheveu blanc est-il un cheveu endormi, un peu lâche? Non, les chercheurs ont plutôt constaté que les cheveux vieillissants consomment plus d'énergie. Ça semble contradictoire, mais Martin Picard a une explication. Citation. Le cheveu, au fur et à mesure, accumule des dommages et il arrive à un seuil. Il prend la décision. OK, je n'ai plus assez d'énergie, je vais me concentrer à survivre. Donc, je coupe la production de mélanine. Fin de citation. Le cerveau serait en quelque sorte le courtier de la dépense énergétique de l'organisme, selon le modèle de Martin Picard et de ses collègues Evan D. Scholson et Alan A. Cohen, publié l'automne dernier dans la revue scientifique Nature Aging. Comme les cellules qui vieillissent lui coûtent plus cher, le cerveau supprimerait graduellement ce qui n'est pas prioritaire. C'est ainsi qu'en vieillissant, la masse musculaire diminue, la testostérone aussi, l'essence s'émousse et les cheveux blanchissent. Je pense que le blanchiment des cheveux, c'est une sage décision. Le corps essaie de faire des économies énergétiques pour me permettre de vivre une belle vie, résume Martin Picard. Traitement. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement médical pour repigmenter les cheveux. Quelques produits vendus en ligne ou en pharmacie ont cette prétention, mais rien de prouvé scientifiquement. Les thérapies dont l'efficacité est démontrée permettent surtout d'augmenter la densité des cheveux, comme le minoxidil, ce qui peut servir de camouflage, explique la docteure Elena Netchipourouk. Citation. Mais je pense que dans 5 ans, cette conversation serait complètement différente. Fin de citation, avance la dermatologue. La recherche progresse, dit-elle, et les causes du blanchissement des cheveux se précisent. Dans la littérature, on trouve aussi des histoires de patients dont les cheveux avaient blanchi trop tôt à cause d'une maladie, qui ont retrouvé leur couleur après un traitement, immunothérapie par exemple. Citation. Une fois que l'on apprend qu'il y a certaines choses systémiques qui peuvent fonctionner, des chercheurs peuvent introduire ces ingrédients dans des formulations topiques, donc en lotion, en crème, en vaporisateur. Fin de citation, illustre-t-elle. Martin Picard, pour sa part, n'est pas particulièrement enthousiaste à la perspective d'un médicament qui forcerait les cellules à produire de la mélanine. Il nous renvoie à l'hypothèse de son équipe. Lorsque le corps vieillit, le cerveau doit gérer un budget énergétique plus serré. Citation. Peut-être tes cheveux retrouveront-ils leur belle couleur, mais peut-être voleraient-ils aussi de l'énergie à ton cerveau. Fin de citation, conclut-il. Jusqu'à 90% de la variabilité du vieillissement des cheveux pourrait être attribuée à des facteurs génétiques, selon certaines études. Source: Premature Hair Graying, A Multifaceted Phenomenon, International Journal of Dermatology, 2024. C'était « Les cheveux blancs peuvent-ils retrouver leur couleur? » Un texte de Catherine Anfield paru le 23 janvier 2025 dans La Presse.
La Journée nationale du hockey, un texte de Marie-Hélène Poitras paru le 11 février 2025 dans Le Devoir. Jeudi 6 février 2025, je siégeais dans le jury de Cégep en spectacle. Dans ce concours, qui en est à sa 46e édition, des jeunes de la relève présentent des numéros de danse, de musique, d'art oratoire, d'humour, etc. On en était ce jour-là à la toute première étape, lors de laquelle un étudiant est sélectionné pour représenter son collège aux étapes qui suivront. Compétition régionale, puis, au printemps, grande finale de tous les cégeps de la province. Soir de tempête de neige. L'auditorium du cégep de Rosemont n'était pas comble, mais il y avait de la fébrilité dans l'air. Les jeunes qui allaient se présenter devant nous sont ceux qui ont vécu la pandémie au beau milieu de leur secondaire, à un âge où se lier aux autres est nécessaire. Ce sont les jeunes qui composent avec l'anxiété générée par l'exposition aux réseaux sociaux à un trop jeune âge, ceux qui ont survécu aux écoles toutes croches et mal entretenues, au système d'éducation à trois vitesses, aux profs usés qui n'en peuvent plus de tenir ça à bout de bras. Entre vous et moi, ces jeunes, je les trouvais déjà courageux avant d'en avoir vu un seul monter sur scène. Parmi les 6 concurrents, 2 garçons ont présenté des numéros de poésie et d'art oratoire. Leur nom, prénom et aussi leur petite pointe d'accent indiquaient que le français n'était peut-être pas leur langue maternelle, que leur famille avait probablement des origines autres que québécoises. Ces jeunes, j'en ai croisé quelques-uns dans des classes d'école défavorisées lors d'une résidence d'écrivaine il y a quelques années, une expérience bouleversante pour moi. Je comprends d'où ils viennent, devine le chemin qu'ils ont dû parcourir pour venir livrer devant nous un poème écrit de leurs mains, présenter leurs réflexions sur le monde et leur vision de ce monde. Ni l'un ni l'autre n'a remporté cette première épreuve. L'honneur est revenu à une jeune interprète au talent éclatant, plus forte qu'eux. Ces jeunes, j'aurais tant voulu qu'ils puissent rencontrer Jean-Sébastien Larouche. Poète, slameur étoile, grand performeur ayant représenté le Québec un peu partout dans le monde et cofondateur avec Carl Bessette des éditions de L'Écrou, la maison des voix fortes, punk et ardentes, Jean-Sébastien Larouche nous a quittés en novembre 2024 par un mercredi cru et cinglant. Dans ce monde où l'on ceigne à blanc la culture en la regardant bêtement agoniser, ça culmine en ce moment. Jean-Sébastien s'est tenu droit contre le vent. L'Écrou, rappelons-le, est une maison qui a fonctionné sans subvention durant 12 ans. Elle nous a donné à lire les Marjolaine Beauchamp, Baron, Marc-André Lévesque, Daphné B., Jean-Christophe Réel, Maude Veilleux et tant d'autres, réunis le samedi 1er février à la Sala Rossa sur le boulevard Saint-Laurent pour rendre hommage à Jean-Sébastien lors d'une soirée belle à brailler. Avant de lire ces textes, les poètes présents y allaient d'anecdotes personnelles sur la force du lien qui les aura unis un temps à ce poète charismatique. En les écoutant, j'ai compris que l'influence d'un écrivain ne se mesure pas au nombre de prix remportés ou de livres publiés, ni à sa popularité ou à ses ventes, mais plutôt à la pépinière de talents qui auront émergé à son contact. Un poète a raconté comment Jean-Sébastien lui avait montré à envoyer chier la foule bruyante dans les bars lors d'une lecture. Un autre a fait part de son émotion quand, lors d'une soirée à micro ouvert, Jean-Sébastien était venu lui poser la question « As-tu déjà pensé publier ?» Une écrivaine a lu une partie de sa correspondance avec lui à la fin des années 1990, quand Jean-Sébastien essayait d'écrire son « maudit roman maudit ». C'est à cette époque-là que je l'ai connu moi aussi. J'étudiais en journalisme et j'écrivais au Montréal Campus, le journal étudiant de l'UQAM. On m'avait envoyé l'interviewer. J'étais moi aussi tombé sous le charme. Comment ne pas? Cette façon magnifique et unique de s'incarner, de brûler devant les mots, cette capacité à embraser la petite flamme en nous pour la transformer en grand feu de joie, cette verve et cette présence, ce regard moqueur noir, tendre et ce swag de rockstar, fascinant, carrément irrésistible. On a tous voulu récolter sur soi un peu de cette chaleur-là. Le soir du 1er février 2025 à la Sala, ce qui m'a ébloui, c'est à quel point tous les poètes réunis voulaient rendre Jean-Sébastien fier. Il et elle lui sont redevables parce qu'il a su leur transmettre, malgré tout ce qui rend cela compliqué, l'idée qu'écrire rend puissant, que la poésie est une drogue forte, transformatrice, et qu'on ne demande pas la permission avant de se l'injecter. Je reviens à Cégep en spectacle et aux deux jeunes poètes en herbe. À travers les mauvaises nouvelles qui s'accumulent ces jours-ci pour la culture, la stagnation du financement déjà maigre qui fragilise et décourage les artistes et qui engendre l'annulation de spectacles, la dévitalisation des compagnies culturelles et la fermeture de plusieurs d'entre elles, qui leur dira, à eux, que la littérature est précieuse et salvatrice? Dans un monde sans Jean-Sébastien Larouche, un monde où les canaris ne remontent pas de la mine, qui transformera en brasier la petite flamme qui palpite timidement dans le cœur de ces jeunes écrivains? Dans ce monde où le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, alors que l'objet de son ministère gît blessé au bord de l'autoroute en respirant avec peine, juge opportun d'aller au BAT pour faire du premier samedi de février la Journée nationale du hockey au Québec, un sport déjà adulé, absolument pas en péril et qui ne souffre d'aucun manque de financement, qui pourra encore reprocher aux jeunes de ne pas s'intéresser à la culture? À quand un premier samedi de n'importe quel mois, novembre, tiens, pourquoi pas, pour célébrer la poésie québécoise? Car si on continue comme ça, non seulement les canaris ne remonteront plus de la mine, mais ils cesseront aussi de chanter. C'était la Journée nationale du hockey, un texte de Marie-Hélène Poitras paru le 11 février 2025 dans Le Devoir.
Le gouvernement Trump baigne dans l'inconstitutionnalité et l'incompétence. Un texte de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne, paru le 4 février 2025 dans Le Devoir. Le gouvernement de Donald Trump s'est engagé sur une voie où la règle de droit et le respect de la Constitution américaine ont été relégués à l'arrière-plan. Selon des experts en politique américaine interrogés par la presse canadienne. Au-delà de l'approche idéologique radicale, la récente avalanche de décisions témoigne de l'impulsivité du président et de l'incompétence de son gouvernement. Pour Pierre Martin, expert en politique américaine à l'Université de Montréal, le président outrepasse déjà largement ses pouvoirs. Par exemple, en ce qui concerne son décret pour réécrire la Constitution au sujet de la citoyenneté à la naissance, c'est-à-dire sur le droit du sol, le juge qui a reçu les contestations juridiques a dit que ça lui semblait hallucinant qu'un avocat certifié ait pu écrire quelque chose comme ça. La Constitution américaine est claire à ce sujet depuis 150 ans, mais le décret cherche à imposer une nouvelle interprétation de ce passage. Oui, de prime abord, ça semble entièrement illégal. De plus, souligne-t-il, congédier tous les inspecteurs généraux va à l'encontre de la loi qui exige un préavis, des explications et qui donne à ces derniers le droit de se défendre pour préserver justement l'indépendance d'un inspecteur général parce qu'il est là pour passer en revue les actions de l'exécutif. Atteinte à l'intégrité et à la neutralité. Effectivement, c'est illégal, renchérit le président et fondateur de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM, Charles-Philippe David. Leur terme n'était pas arrivé et c'est une atteinte à l'intégrité et à la neutralité de la fonction publique, une loi qui date de près d'un siècle qui avait décrété que la fonction publique doit être neutre. Même les fameux décrets sur les tarifs, poursuit Pierre Martin, sans être illégaux, sont contraires à l'esprit de la loi. La présidence peut imposer des tarifs dans des situations dites d'urgence nationale ou pour des questions qui ont trait à la sécurité nationale. Mais dans ce cas-ci, Donald Trump invente une crise à partir de rien ou à partir d'une interprétation alarmiste d'une situation qui n'est peut-être pas idéale, mais qui n'est certainement pas une menace à la sécurité nationale ou une crise. Approche de choc et stupeur. Charles-Philippe David ajoute un autre exemple. Un juge d'une cour fédérale a dû stopper le projet de suspendre les subventions du gouvernement fédéral en disant que ce n'était pas légal, parce que c'est au Congrès de décider ça et non pas au président. Ces poursuites, note-t-il, se multiplient dans plusieurs États. Ça va sortir au compte-gouttes et là, il y aura des juges qui vont dire non. Il suffit qu'il y ait une interdiction dans une cour fédérale d'un État pour que ça s'applique à l'ensemble des États-Unis. C'est là-dessus qu'il faut compter à court terme. Pour David Grondin, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal, CERIUM, l'intention du président est claire. Il y a, avec l'approche de choc et stupeur du président Trump, contre l'administration fédérale, une volonté de tester la nature fédérale de la gouvernance américaine. Le président semble avoir, avec son équipe, un plan pour essayer d'affirmer l'autorité du président comme chef de l'exécutif afin de redéfinir le fonctionnement des bureaucraties fédérales. Il y a là, ajoute-t-il, une lutte à venir avec le Congrès. Pour l'instant, elle n'est pas là, mais il y a des réactions à venir aussi des États et des administrations locales. Contrepoids. Le système politique américain est conçu, théoriquement, pour opposer des contrepoids au pouvoir exécutif détenu par Donald Trump, dont la nécessité de passer par les deux chambres du Congrès, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants. Le fait de gouverner décret par décret, n'est assurément pas prévu pour être la seule façon que le président Trump aura de gouverner, explique le professeur Grondin. Les décrets peuvent de toute façon être suspendus par la Cour ou par le Congrès, comme le fédéralisme américain le prévoit. Cela dit, le Parti républicain étant marginalement dominant dans les deux chambres, il semble que ses membres ne souhaitent pas défier le président. Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand, souligne que les cours fédérales de première instance peuvent effectivement être un premier rempart en matière de contre-pouvoir, mais à court terme. Trump peut continuer la bataille dans les cours et ça peut se rendre jusqu'à la Cour suprême qui, elle, a un penchant conservateur en ce moment. C'est une cour qui peut avoir, ce n'est pas automatique, qui pourrait avoir tendance dans l'avenir à pencher plutôt du côté de Trump si jamais des gens remettaient en question ces décrets-là à travers les cours. Vous écoutez, le gouvernement Trump baigne dans l'inconstitutionnalité et l'incompétence, un texte de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne, paru le 4 février 2025 dans Le Devoir. Le Congrès jouera-t-il son rôle? Il ajoute que le déferlement d'annonces est une chose, mais que Trump va avoir besoin de fonds pour mettre en œuvre ses politiques. Puis, l'argent, les fonds, enfin les budgets, c'est le Congrès qui les adopte. Les républicains ont beau avoir la majorité dans les deux chambres, ces majorités sont minces, et elle est même très mince dans le cas de la Chambre des représentants, où les démocrates détiennent 215 sièges contre 218 pour les républicains. Les démocrates ne sont pas extrêmement puissants dans le contexte actuel, mais au Congrès des États-Unis, il va quand même y avoir des contre-pouvoirs. Il n'y a pas de discipline de parti aussi automatique que dans nos législatures ici au Canada puis au Québec. Donc, il arrivera de temps en temps que des républicains ne voudront pas nécessairement voter pour les projets de Trump. Signal d'alarme. Pour Pierre Martin, les cours fédérales de première instance sont effectivement un signal d'alarme important parce qu'on les a vus rejeter plusieurs des mesures qui ont été proposées dans les derniers jours. Du côté du Congrès, normalement, on devrait réagir en tant que contrepoids, mais personne dans la majorité républicaine ne semble être disposé à mettre ses culottes, laisse-t-il tomber. Cela pourrait toutefois changer, précise-t-il. Au moment où certaines décisions vont devenir politiquement intenables pour certains de ces législateurs et surtout qui vont les empêcher de fonctionner de façon efficace, notamment à la Chambre des représentants, parce qu'il semble y avoir beaucoup de dissensions à l'intérieur du caucus. Les contre-pouvoirs sont mis à mal, très affaiblis, confirme Charles-Philippe David. L'opposition démocrate est vraiment dans un sale état, et ce ne sont pas les républicains qui vont vraiment s'opposer à Trump, sinon épisodiquement, quand ça dépasse l'entendement. Le Congrès, à court terme, ne sera pas un facteur ou un contre-pouvoir au duo maléfique Trump-Musk, selon lui. Réaction négative du public. Cependant, croit-il, à moyen terme, je pense qu'il va y avoir une résistance qui va s'organiser du côté de la société civile, des organismes non gouvernementaux, d'organisations de toutes sortes, et on voit déjà cette mobilisation. Quand les gens vont souffrir, ils vont vouloir réagir. Pierre Martin note que c'est d'ailleurs déjà tangible. Le public réagit déjà de façon négative. Il y a déjà une majorité de l'opinion publique qui désapprouve les actions de Trump, les sondages le montrent. Il y a beaucoup de ces électeurs qui ne s'attendaient pas à ce qu'ils prennent ce genre de direction aussi radicale et qui vont peut-être l'abandonner. Et au fur et à mesure que l'opinion publique se retournera contre lui, il n'est pas impossible que les législateurs aussi commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est à propos de continuer à l'appuyer politiquement pour la prochaine élection? Une masse d'incompétence critique. La manière d'agir de Donald Trump trahit par ailleurs une réalité. Qui a de quoi inquiéter lorsqu'on considère que les États-Unis sont toujours la première puissance économique et militaire au monde? C'est non seulement le gouvernement le plus incompétent de l'histoire des États-Unis, c'est aussi le plus amateur quand on regarde la masse des gens qui sont nommés, tranche Charles-Philippe David. Il y a toujours eu des incompétents ici et là, mais là, on parle d'une masse d'incompétence critique. Le chercheur fait référence au fait que, dans son premier mandat, Donald Trump avait été entouré par des gens ayant une certaine expérience de la gouvernance dans les postes clés. Des gens qui ont tous démissionné ou qui ont été congédiés en cours de route. Or, le gouvernement Trump 2.0 est d'une toute autre nature, le président ayant lui-même choisi toutes les personnes devant occuper les postes clés. Loyauté d'abord et avant tout. Ce qui va compter d'abord et avant tout pour la formation de l'équipe Trump 2.0, c'est la loyauté envers sa personne, explique Pierre Martin. Contrairement à ce qui est normalement la règle, c'est-à-dire que les membres d'un gouvernement sont d'abord et avant tout loyaux envers la Constitution des États-Unis, la règle de droit existante. Pour Trump, tout ça va prendre le bord au prix d'une relative incompétence apparente de certains de ses nommés. Et cela l'inquiète. Est-ce qu'on veut vraiment confier le Pentagone, le ministère de la Défense des États-Unis, la plus grosse bureaucratie du monde, à quelqu'un, Peter Hesget, qui n'a aucune expérience de gestion et qui est un animateur de télévision de Fox News? C'est un risque. Est-ce qu'on veut confier le ministère de la Santé à quelqu'un, Robert Kennedy Jr., qui ne croit pas en la mission du ministère de la Santé? C'est un autre risque. Face à des crises, face à des situations difficiles, cette relative incompétence risque d'avoir des conséquences sérieuses. Frédéric Gagnon rappelle que, durant le premier mandat de Donald Trump, il y avait plus de désaccords dans le parti. Il y avait plus de désaccords même au sein de son gouvernement, à ce moment-là, parce qu'il n'avait pas une emprise aussi forte sur le parti. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il a gagné de façon encore plus nette qu'en 2016. Il estime avoir un mandat pour gouverner comme il le veut. Il nomme autour de lui des gens qui lui sont plus loyaux dans son administration et parmi les républicains du Congrès. C'était « Le gouvernement Trump baigne dans l'inconstitutionnalité et l'incompétence », un texte de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne, paru le 4 février 2025 dans Le Devoir.
La figure maternelle de la littérature acadienne, un texte de Laïla Malouf, paru le 18 février 2025 dans la presse. Antonine Maillet, autrice de La Sagouine, n'est plus. On se souvient d'elle comme d'une grande dame, une pionnière, une conteuse extraordinaire qui n'a jamais perdu la flamme de l'écriture. Antonine Maillet, autrice de La Sagouine, s'est éteinte à l'âge de 95 ans. Quand je suis allée la voir la semaine avant, elle avait encore de l'écriture en route et on a lu des petits bouts de son journal ensemble pour se mettre dans son état de pensée. Elle savait où elle allait. Elle était d'une très grande lucidité. Madame Maillet a toujours été d'une grande lucidité, a confié son éditeur chez Le Méac depuis 53 ans, Pierre Filion. Il raconte qu'elle avait recommencé à écrire à la main depuis quelques années et se souvient de la dernière phrase qu'il avait lue cette journée-là. « La vie est juste en face. » « Qu'est-ce que tu veux dire, Tonine ?» Elle m'a dit. « Ma vraie vie commence. Je vais découvrir la vie. » C'est incroyable, rire. Je ne suis pas triste, parce que Tonine est partie en très grande sérénité. Je suis triste parce qu'on a perdu une amie. Madame Maillet, c'est une icône, affirme Pierre Filion. C'est une voix de l'Acadie, une voix de la francophonie. De Paris, l'écrivain Dany Laferrière a dit avoir eu un sentiment étrange quand il a appris la nouvelle. « Je n'arrivais pas à être triste en apprenant cette nouvelle. Je me suis demandé comment on pouvait être triste face à cette boule d'énergie. Je me rappelle ses yeux aigus quand elle vous parlait, cette truculence de langage, ce désir fou de convaincre, ce goût du plaisir de dire les choses, de dire une chose, son amour de l'Acadie. Il se souvient de la façon dont elle avait élevé la voix en parlant de La Sagouine et de son Acadie natale avec le président français Emmanuel Macron, qui lui avait rendu visite chez elle en septembre 2024. « Tant que je vivrai, avait-elle dit, je porterai l'Acadie dans mon cœur. » Elle l'avait dit sans cesse ce soir-là à Emmanuel Macron. la directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert, Denise Filiatro, a salué de son côté une immense écrivaine, figure emblématique de l'Acadie, dont l'empreinte sur le Théâtre du Rideau Vert demeurera indélébile. Qu'elle repose en paix, ayant accompli sa mission au terme d'une vie bien remplie, a souligné Madame Filiatro. À l'Université de Moncton, dont Antonine Maillet a été chancelière de 1989 à 2001, les drapeaux ont été mis en berne pour 10 jours sur les 3 campus. Les 25 dernières années, elle était omniprésente. Elle s'intéressait beaucoup au développement de son université, comme elle l'appelait souvent. Elle était heureuse de voir que l'université continuait à progresser et à se développer, a confié le docteur Denis Prudhomme, recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton. Herménégilde Chiasson, poète, dramaturge et réalisateur acadien qui a été lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, l'avait rencontré quand il était étudiant à l'Université de Moncton. J'ai suivi un cours avec elle sur la littérature étrangère et je me suis rendu compte à quel point elle avait vraiment une connaissance littéraire très étendue. Mais ce qui m'avait le plus surpris, c'est le fait qu'elle n'avait presque pas de notes. Elle est un peu comme la figure maternelle de la littérature acadienne parce qu'à l'heure actuelle, il y a 4 générations d'écrivains acadiens, mais elle a vraiment été la première, poursuit-il. C'est assez éprouvant parce que les gens de cette génération s'en vont. Des gens comme Léonard Forêt, par exemple, qui était cinéaste à l'ONF et qui a été durant très longtemps le seul cinéaste acadien, ou Roméo Savoie, qui était un architecte et un peintre très réputé. Un monument. Une personne comme Antonine, on ne s'imagine pas qu'elle peut mourir. On dirait que c'est là pour tout le temps. La voix d'Edith Butler était moins enjouée que d'habitude au bout du fil lundi. À 82 ans, la chanteuse acadienne vient de perdre une amie, une mentor, un maître à penser qu'elle fréquentait depuis des décennies. Je l'ai rencontrée très jeune, vers 16-17 ans. Elle était notre prof au Collège Notre-Dame d'Acadie. Avec d'autres enseignantes, Antonine Maillet a transmis à Edith Butler cette responsabilité de continuer l'Acadie, raconte-t-elle. Les deux femmes se sont depuis toujours suivies. Antonine a assisté à tous ses spectacles. Edith a joué dans ses pièces au Rideau Vert et a même inspiré un bout de Pélagie la Charrette. Pour aider l'autrice à débloquer dans l'écriture du roman, elle lui avait raconté l'histoire de la famille de sa mère lors d'une discussion à bord d'un avion. Si vous lisez Pélagie, vous allez trouver l'histoire des Godins. C'est celle des ancêtres de ma mère. Quand elle pense à Antonine Maillet, Edith Butler se souvient d'une grande conteuse, que ce soit devant une seule personne ou en public, d'une femme heureuse qui aimait ce qu'elle faisait, de son rire, elle riait tout le temps, de l'amitié. Au printemps dernier, on avait fait une fête pour ses 95 ans. Elle était debout, pas de canne, et nous a fait un discours à plus finir. Cette fois-là, j'ai pris une photo de ses yeux. Ils étaient pétillants, pleins de vie, comme ceux d'un enfant. Plus qu'un héritage, Antonine Maillet laisse derrière elle un patrimoine, estime Edith Butler. Si c'était juste de moi, l'Université de Moncton aujourd'hui, je la renommerais Université Antonine Maillet. La cinéaste Ginette Pellerin, qui avait réalisé en 2009 le documentaire sur l'écrivaine « Les possibles sont infinis » que l'on peut voir sur le site de l'ONF, se souvient également de la conteuse incroyable qu'elle était. « C'était quelqu'un qui adorait raconter », a-t-elle dit à la presse. « C'était un monument, un personnage extraordinaire. » Vous écoutez « La figure maternelle de la littérature acadienne », un texte de Leïla Maalouf, paru le 18 février 2025 dans La Presse. Un pays en deuil. Thierry Arsenault a été co-directeur du Pays de la Sagouine, qui accueille depuis 2 ans plus de 80 000 visiteurs par année, surtout du Québec et des provinces de l'Atlantique, mais de plus en plus de l'Est des États-Unis, de l'Ontario et de l'Europe, qui font le déplacement jusqu'au village inspiré de son célèbre personnage. Il se souvient de la dernière visite de Madame Maillet au Pays de la Sagouine en 2022, à l'occasion du 30e anniversaire des lieux, et du privilège qu'il avait eu de la reconduire de Bouctouche à Montréal. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Parce qu'il y a plus de 30 ans, j'avais fait ma thèse de maîtrise sur l'œuvre d'Antonine Maillet et je l'avais interviewée. Je lui ai parlé il y a 2 semaines lorsqu'on lui a envoyé des fleurs pour égayer sa convalescence après son séjour à l'hôpital. Elle m'a appelé pour nous dire merci. Elle était toujours aussi vive d'esprit et son humour était toujours intact. Elle m'a dit « Je sais qu'il y a des gens qui parlent de moi en Acadie ces temps-ci. Si tu entends des gens parler en mal de moi, tu peux me les envoyer, je vais m'occuper d'eux. » Thierry Arsenault résume « C'était une femme extraordinaire qui a permis à tout un peuple de se tenir debout et d'être fier de qui nous sommes. » Dans un communiqué publié sur Facebook, le président du conseil d'administration du Pays de la Sagouine, Camille Thériault, a déclaré que grâce à Antonine Maillet, un petit pays a pris naissance dans la baie de Bouctouche, un espace de création et de rassemblement qui a accueilli bien au-delà 1 million de visiteurs depuis son ouverture et qui a encouragé des générations à s'exprimer et à se raconter. Je ne pense pas qu'il soit possible de mettre en parole la gratitude, le respect et l'amour que nous avons pour Antonine Maillet ici, au Pays de la Sagouine, a témoigné la directrice générale et artistique du village théâtral, Monique Poirier. Au-delà du fait que ce merveilleux site touristique et culturel soit né grâce à son imagination et à son audace, Antonine a fait connaître son Acadie en ayant le courage d'en parler avec ses mots, son cœur et ses tripes. Elle m'a donné les outils pour nager à contre-courant et vivre pleinement ma liberté créatrice, a souligné Denise Bouchard, qui, en plus d'incarner le personnage de Maria Gélas depuis 30 ans, occupe les fonctions de metteuse en scène et d'autrice au Pays de la Sagouine depuis 10 ans. L'héritage d'Antonine Maillet perdurera par le biais des histoires qu'elle a racontées, la fierté qu'elle a suscitée et ses contributions au tissu culturel de notre province, a écrit sur le réseau social X la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt. À travers son œuvre, qui s'est étalée sur plus d'un demi-siècle, Antonine Maillet a marqué l'imaginaire bien au-delà de son Acadie natale. Sur X, le premier ministre du Québec, François Legault, s'est souvenu des monologues songés de la Sagouine avec son bel accent acadien. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, y a écrit pour sa part que cette géante de la littérature d'expression française, pionnière de la littérature acadienne qui aura atteint un vaste public grâce à ses romans, son théâtre et ses monologues de la Sagouine, a montré que l'universel se trouvait aussi dans la réalité locale. Le Consulat général de France à Québec a également déploré la disparition d'Antonine Maillet sur le réseau social, la qualifiant de perte immense pour la francophonie, tout en rappelant le prix Goncourt qu'elle avait remporté en 1979 et l'honneur qu'elle avait reçu du président français Emmanuel Macron, qu'il avait élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur en 2021. Antonine Maillet, 1929-2025. Une vie consacrée à converser avec l'Acadie, retour sur un parcours parsemé de petits et de grands exploits. Après une vie passée à raconter les histoires et légendes de son Acadie natale, l'autrice de La Sagouine s'est éteinte paisiblement dans la nuit du 17 février 2025 à son domicile de Montréal, a confirmé sa maison d'édition, le MÉAC. Elle avait 95 ans. En plus d'avoir écrit plus d'une cinquantaine de titres, romans, contes, pièces de théâtre et essais, traduits en de nombreuses langues, Antonine Maillet a été récompensée à de nombreuses reprises durant sa carrière d'écrivaine, notamment par le prestigieux prix Goncourt en 1979, qu'elle a été la première non-européenne et la seule canadienne à ce jour à avoir remporté. En novembre 2024, elle avait assisté au dévoilement d'un timbre à son effigie au Salon du Livre de Montréal. « Je veux écrire jusqu'à 100 ans si je les vis », avait-elle dit à la presse en 2019, lors de la parution de son autobiographie « Clin d'œil au temps qui passe », qui coïncidait avec son 90e anniversaire de naissance. Dans ce livre, inhabituellement intime, l'écrivaine revient pour la première fois sur ses débuts dans l'écriture, sur la maladie de sa mère, la mort de son père, de même que les années passées auprès de sa compagne, Mecha, la co-fondatrice du Théâtre du Rideau Vert, Mercedes Palomino, morte en 2006. Vous écoutez « La figure maternelle de la littérature acadienne », un texte de Laïla Malouf, paru le 18 février 2025 dans La Presse. Puis, en 2022, à l'âge de 93 ans, Antonine Maillet a voulu départager son héritage en écrivant « Mon testament », une œuvre qui rend hommage à tous les personnages qui ont redonné vie à son Acadie natale. La mission de l'écrivain est la même que celle d'une mère qui met au monde des enfants, écrivait Antonine Maillet en entrevue avec La Presse en 2022. « Moi, j'ai mis au monde quelques centaines d'enfants, mes personnages. Je leur dois tout et ils sont plus forts que moi. » Antonine Maillet est née le 10 mai 1929 à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, de parents instituteurs qui accordaient une grande place à la culture au sein de la famille de 9 enfants. Tandis que tous ses frères et sœurs jouaient du piano, elle aimait déjà raconter des histoires. Dans le documentaire de Ginette Pellerin paru en 2009, « Les possibles sont infinis », elle se souvient comment sa mère, qu'elle a perdue à 14 ans, avait très tôt cerné l'enfant à l'imagination débordante qu'elle était. « Mes deux parents ont compris ce qu'il me fallait dans la vie, l'ont respecté et m'ont encouragé. » À son père, qui meurt 10 ans plus tard, elle a le temps de lire son premier roman en cours d'écriture, « Pointe au coq », publié en 1958, qui met en scène les tout premiers personnages issus de sa terre natale. « Mon inspiration provient de mes racines », a-t-elle dit lors d'un entretien en 2019 avec des étudiants de l'Université de Montréal, établissement où elle a elle-même étudié, puis enseigné et obtenu un doctorat honorifique, en plus d'une trentaine d'autres doctorats honorifiques. « Quand j'écris, c'est cette Acadie qui me parle, et je lui parle aussi », disait Antonine Maillet en 2019. Avant de se consacrer exclusivement à l'écriture, Antonine Maillet a d'abord exercé le métier d'institutrice, tout en poursuivant ses études. « Lorsque j'ai reçu mon baccalauréat en 1950, nous n'étions que 4 filles parmi toute la cohorte de garçons. Mère Jeanne de Valois nous a alors dit à toutes les 4, « L'Acadie n'existera peut-être plus dans 50 ans, mais si elle existe encore, ça va dépendre de vous, les femmes, parce que c'est vous qui assurerez l'éducation en Acadie », a-t-elle raconté à la revue « Les diplômés de l'Université de Montréal » en 2019. En 1961, elle quitte sa province natale pour étudier à l'Université de Montréal, Puis, encouragée par un professeur de l'Université Laval, elle prépare un doctorat sur la tradition orale acadienne et l'étude de Rabelais, qui lui fait entreprendre un tour de l'Acadie au cours duquel elle interview des aînés et se nourrit d'histoires qui inspireront ses œuvres futures. Une bourse du Conseil des arts du Canada l'envoie par la suite étudier un an à Paris, mais elle retourne en Amérique du Nord pour enseigner à l'Université de Moncton, à l'Université Laval et à l'Université de Montréal, s'installant définitivement dans la métropole au cours des années 1970. En 1972, elle obtient le prix du gouverneur général pour « Don l'Orignal », mais c'est le succès de sa célèbre pièce « La Sagouine », publiée l'année précédente, qui la convaincra de mettre fin à sa carrière en enseignement en 1975. « Je suis devenue un écrivain connu avec La Sagouine. C'est elle qui m'a fait connaître. Et je suis tellement fière de ce livre, parce que c'est ça qui est l'œuvre unique, dans un sens. N'importe qui pouvait écrire Pélagie. » Mais pas celle-là. Il fallait l'avoir vécue, l'avoir vue, avoir connu sa langue, a-t-elle dit à la presse en 2022, après la parution de « Mon testament ». Les monologues en chiac de cette laveuse de plancher acadienne qui a réellement existé sur les difficultés de la vie et la pauvreté ont été interprétés sur scène par la comédienne Viola Légère, qui a incarné le personnage plus de 2000 fois de 1971 à 2013, en français et en anglais, au Canada aussi bien qu'en Europe et aux États-Unis. La pièce a également été adaptée à la télévision de Radio-Canada en 1976 et a inspiré la création d'un village thématique au Nouveau-Brunswick, le pays de la Sagouine, qui a ouvert ses portes en 1992 sur une petite île dans la baie de Bouctouche, là où l'écrivaine a toujours dit puiser son inspiration artistique. Vous écoutez « La figure maternelle de la littérature acadienne », un texte de Laïla Malouf, paru le 18 février 2025 dans la presse. De l'Acadie à Montréal, en passant par la France. Que ce soit avec « Lettre de Montfort », « Pierre Bleu » ou encore « L'île aux puces », Antonine Maillet a construit une œuvre émaillée de français acadien, empreinte d'un attachement sans borne pour le peuple de son bord de mer natal, ses croyances et ses traditions, donnant une voix à ceux qui n'en ont pas, ces gens d'en bas, comme elle les appelle dans la pièce Les Crasseux. Elle a immortalisé des personnages marginaux, comme dans Madame Perfecta, où elle évoque avec affection cette femme qui prenait soin de sa demeure, ou Maria Gélas, l'histoire d'une héroïne qui devient contrebandière, et qui lui a valu le prix Québec-Paris en 1975. Et à travers toute son œuvre, trônent des personnages de femmes inoubliables, telle la veuve devenue esclave de Pélagie la Charrette, le roman qui lui a permis de remporter le Goncourt en 1979, l'année du 375e anniversaire de l'Acadie. Le prestigieux prix français a d'ailleurs été l'occasion pour elle de réaffirmer ce qu'elle appelait alors sa lutte culturelle. Pélagie la Charrette arrive à un moment où l'on doit dire à la France qu'elle n'a pas le droit de s'accaparer de la langue française à elle toute seule. La langue française appartient à la francophonie, à ceux qui la parlent. Pélagie la Charrette, c'est une revanche à l'histoire, l'histoire qui nous avait oubliés. C'était un geste que je disais à la France. On n'est pas mort, avait-elle rappelé en mars 2021, en revenant sur cette victoire dans une entrevue réalisée par la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Antonine Maillet a néanmoins porté difficilement l'obtention de ce prix en raison du malaise qu'il a causé parmi nombre de ses confrères de la belle province, notamment parce que la première Canadienne francophone à l'avoir remportée n'était pas québécoise. La pression était par ailleurs très forte par rapport à la suite de son œuvre, mais l'écrivaine a redoublé de créativité et est même parvenue à accélérer son rythme d'écriture, entamant un nouveau livre, sitôt le précédent terminé. Antonine Maillet est certainement une auteure prolifique et incontournable de la littérature acadienne et francophone. Mais ce qui la distingue et nous la fait apprécier encore davantage, c'est la vivacité des personnages qu'elle dépeint et son amour manifeste pour les sonorités si particulières et si belles de la langue française acadienne, avait affirmé en 2020 Sonia Lebel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, en lui remettant le prix Acadie-Québec. Antonine Maillet a par ailleurs été nommée en 2020 citoyenne d'honneur de la ville de Montréal par la mairesse Valérie Plante, qui a souhaité souligner l'empreinte laissée par une grande femme de lettres, une icône de la littérature, dans la culture, l'histoire et la mémoire de la métropole de tous les francophones d'Amérique du Nord, selon l'écrivaine qui l'a habitée pendant plus de la moitié de sa vie, entre autres sur l'avenue du quartier Outremont baptisée de son nom. Faisant preuve d'une grande discipline dans l'écriture tout au long de sa carrière, Antonine Maillet n'a jamais manqué de souligner l'importance de ce métier qu'elle a choisi et vénéré. L'écrivain, comme l'artiste, a, à mon sens, une charge. Il est chargé d'une mission. Le créateur ne fait pas juste s'amuser à faire des choses nouvelles. Il crée des choses qui représentent la vision de toute sa génération ou de tout son peuple, de son pays ou de son coin du monde, avait-elle dit en 2008 à la presse, à la sortie de son roman « Le mystérieux voyage de rien ». J'ai rêvé de beaucoup de choses, d'être exploratrice, par exemple, ou historienne, ou même avocate. Mais le rêve des rêves, c'était de passer toute ma vie à raconter des histoires. Je peux donc dire que j'ai réussi jusqu'à présent, et dans le plaisir de surcroît. C'était La figure maternelle de la littérature acadienne, un texte de Laïla Malouf, paru le 18 février 2025 dans la presse.